Oui, bien sûr, parce que si on voit ces précipitations sont directement les conséquences du changement climatique. Les scientifiques ont longtemps dit qu'on aura le changement climatique et ce changement climatique va se présenter sous forme d'extrême climatique. Et quand je dis extrême climatique, ça inclut des fortes précipitations tout comme les fortes sécheresses. Pourquoi on assiste à ça? C'est parce que notre Terre est en train de se réchauffer suite à l'émission des gaz à effet de serre. Et quand cette Terre se réchauffe, quand nos températures deviennent de plus en plus hautes et qu'on ressent cette chaleur, nos océans aussi se réchauffent. Et quand les océans se réchauffent, ils émettent de la vapeur d'eau. Et c'est cette vapeur d'eau aujourd'hui qui crée ces précipitations qui sont extrêmes. Et c'est juste le début du changement climatique qu'on est en train de voir. Donc on sait très bien que, surtout en Afrique, on sait dans le Sahel, qu'on va assister à ce phénomène. Il faut noter que, en fait, c'est au cours de ces dernières années qu'on remarque qu'on a de plus en plus d'extrêmes parce qu'on est arrivé à la limite où nos infrastructures ne peuvent plus supporter ces précipitations. Mais quand on regarde, depuis une vingtaine d'années, on a des satellites qui nous permettent de dire aujourd'hui, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, comment les précipitations ont changé en Afrique. Et on sait très bien, si on regarde la bande du Sahel, contrairement à ce que les gens peuvent penser, en fait, les précipitations ont augmenté au Sahel depuis les années 2000.
D'accord. Justement, cher Mbaou, le Sahel reçoit-il trop d'eau ou bien ces inondations sont juste le fruit d'une urbanisation non contrôlée?
Merci. Je voudrais renforcer les propos de Patrick Padima par rapport aux implications du changement climatique dans ces événements extrêmes. C'est depuis 2012 que le IPCC, le GIEC, avait émis son premier rapport sur les événements extrêmes. Et ça fait 10 ans que ces phénomènes se confirment chaque saison. Et parlant du Sahel, effectivement, le climat est en train de changer. Le profil saisonnier a beaucoup changé. Et ce qu'on appelle événement extrême ici, c'est des pluies de forte intensité. Des pluies qui amassent beaucoup d'humidité et qui se déversent en très peu de temps sur des endroits. Par exemple, au niveau de Dakar, récemment, il peut arriver que presque 30% de la pluviométrie annuelle puisse tomber en l'espace d'une semaine dans la même agglomération urbaine. Et c'est comme ça qu'on observe ces phénomènes à Bamako, à N'Djamena, un peu partout. Le problème principalement, je crois, du Sahel, c'est au-delà du climat, la vulnérabilité de nos infrastructures, mais aussi la vulnérabilité des personnes. Ces mêmes types de pluies peuvent intervenir dans d'autres endroits ou dans d'autres endroits géographiques. Vous avez parlé des États-Unis sans faire les mêmes dégâts parce qu'ils ont les infrastructures qu'il faut, ils ont les canalisations qu'il faut et ils ont les réponses qu'il faut pour pouvoir atténuer un peu ces inondations. Mais cette question de vulnérabilité est liée à la pauvreté des États, à la nature des maisons que nous avons. C'est des maisons qui sont construites sans les normes de construction. Évidemment, ils n'ont pas les moyens de construire avec ces mêmes normes. Et du coup, donc, dès qu'on a des précipitations de 40 ou 50 mm en l'espace d'une heure ou de deux heures de temps, ces espaces sont rapidement inondés.
J'ai envie de vous demander à tous les deux, justement, les pays sahéliens, le Tchad, le Niger, est-ce qu'ils sont dans une situation plus vulnérable puisqu'on assume que ce sont des zones arides où normalement il ne pleut pas beaucoup? Est-ce que cela rend un peu la planification plus difficile? Fadji d'abord.
Donc du coup, oui, quand on parle de vulnérabilité, comme l'a bien dit Cheikh, en fait, il faut voir que on a ces fortes précipitations, c'est sûr, mais la vulnérabilité va dépendre des infrastructures qu'on a sur place et de niveau aussi de richesse ou de pauvreté du pays. Quand on regarde le Sahel aujourd'hui, on n'a pas vraiment des infrastructures qui sont faites pour supporter ces fortes précipitations. En plus de ça, on a une population qui est pauvre et cette population ne peut pas se relever facilement après une telle catastrophe. Donc c'est pour ça aujourd'hui que nos pays sont très vulnérables. On n'a pas l'habitude de parce qu'on est plutôt des zones qui sont arides. Donc le changement qu'on est en train de voir aujourd'hui est énorme pour nous. On n'a pas l'habitude d'avoir ces fortes précipitations. On n'est pas du tout prêt à l'avoir. Et puis en plus de ça, il y a la pauvreté qui joue.
Le Sahel plus vulnérable que les autres régions?
Plus vulnérable. Et si vous permettez, je crois que ma collègue va pouvoir aussi s'exprimer sur cette question. Le Sahel a été marqué par une série de sécheresses. depuis les années 70 ou sur l'histoire récente dans les années 80. Et puis récemment, on a eu des méga sécheresses, des sécheresses de pluie pour Guinée. Et à chaque fois qu'on a des sécheresses, les dépressions qui sont les zones les plus basses au niveau des zones des établissements humains ou dans le milieu rural, ces zones les plus basses ont tendance à être occupées par des populations pauvres parce qu'ils n'ont pas effectivement les ressources financières pour acquérir des terrains en bonne et due forme sur des espaces qui sont des espaces autorisés pour la construction. Une grande partie de nos villes, plus de 30%, 40% de l'occupation de l'espace se fait dans des zones non édifiantes. Dakar, par exemple, 30% de la ville de Dakar sont dans des zones qui sont à moins de 5 mètres d'altitude. Et pendant les sécheresses, ces zones sont libérées par les eaux. Donc vous avez l'impression que c'est des terres qui sont habitables. Mais dès que vous construisez des maisons et que la pluie revienne, vous créez deux problèmes. Le premier problème, c'est l'écoulement de l'eau. L'eau ne s'écoule plus normalement comme il devrait l'être pour aller vers l'exutoire. Ça fait des dépressions pour l'océan. Mais en deuxièmement, on a des problèmes d'infiltration. L'eau ne s'infiltre plus. La surface bâtie est créée des zones imperméabilisées. Ce qui fait que l'eau doit nécessairement circuler et aller dans des zones basse. Et c'est là où on a une accumulation rapide des précipitations. En d'autres termes, pour conclure sur cette question, je crois qu'on a un gros problème d'aménagement de l'espace. Le climat, certes, mais un gros problème de gestion de l'espace urbain et des établissements humains.
D'accord. Alors, Fadi Maïna, est-ce qu'on peut parler de phénomènes cycliques où sommes-nous peut-être dans la durée pour ce qui est de ces fortes précipitations qui sont à l'origine des inondations? Est-ce qu'il est possible de prévenir ou en tout cas de prévoir ces cycles?
Donc, ces précipitations qui sont extrêmes ont été prédites il y a longtemps. On sait très bien comment le changement climatique va affecter la zone presque partout dans le monde. Sur le Sahel, on a des incertitudes parce qu'on n'a pas beaucoup de données pour pouvoir caler nos modèles mathématiques qui vont nous permettre de savoir exactement comment notre climat va se présenter dans le futur. Mais une chose est sûre, on sait très bien qu'on va faire face à ces extrêmes climatiques, à ces précipitations. Et ce n'est que le début, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les projections climatiques sur le Sahel dans l'horizon 2050 et 2100, on sait très bien que c'est ces types d'environnement que l'on va avoir. Donc, je dirais que autant se dire que ça, c'est notre futur qui est là, et ce futur, on peut le prédire. Et pour le prédire, il va falloir investir dans la recherche pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en Afrique, encore une fois, parce que si on voit le monde, par exemple, tout le monde entier, en fonction des régions, en fonction des données que l'on a des régions, on peut améliorer nos prédictions. Donc aujourd'hui, en Afrique, on a intérêt à mieux améliorer nos prédictions pour pouvoir mieux se préparer, pour pouvoir avoir les infrastructures qui sont pour supporter ces précipitations.
Tous mes deux invités sont en fait des chercheurs, donc on aura l'occasion de parler de cette question, certainement en seconde partie. Mes chers, si le phénomène est cyclique et qu'on reste 2, 3, 5 ans avec des précipitations en dessous de la moyenne annuelle, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le piège du relâchement, si je peux le dire ainsi, et préserver les zones non édificandies, comme vous le disiez, surtout avec cette pression démographique que connaissent beaucoup de villes africaines?
Merci, cette question elle est essentielle. Je crois que dans un premier temps, j'aurais proposé à ce qu'on fasse du rattrapage. Il y a beaucoup d'erreurs d'urbanisation qui ont été commises dans nos villes. Si vous allez à Bamako, j'étais à N'Djamena récemment, et ils vous diront que les inondations ne sont pas passées juste cette année. On avait fait un rapport sur le changement climatique au Tchad qui avait montré effectivement qu'on avait une certaine récurrence de ces inondations. Et quand il y a sécheresse, on a tendance à oublier rapidement, mais ces sécheresses peuvent être intermittentes. Donc cette vulnérabilité là et cette grande variabilité du changement climatique a été prédite par beaucoup de documents, y compris la NOAA. Une projection jusqu'en 2100 de la NOAA avait prévu cette grande variabilité du climat en Afrique de l'Ouest du fait des facteurs qui ont été évoqués par notre collègue de la NOAA. Mais le plus important, et c'est là où ça va être extrêmement difficile d'être préparé à 200%, ça veut dire que ce que je veux dire, c'est que quand on a un risque pluviométrique élevé, le fait de l'avoir sur les 24 heures et 48 heures, avoir des informations fiables, comme l'a dit Fadima, c'est extrêmement difficile. Je me rappelle en 2005, nous, on avait vu au labo le grand nuage qui avait créé la très grande pluie à Tchaoui et à Yimbel, etc. On l'avait vu vers les coups de nuit, dans la banquette de Dakar. On a tout le temps minuit. Et l'image était à la frontière de Bama, du Mali et du Sénégal. Avant d'arriver à Dakar, il faisait 6 heures du matin. Tous les gens n'étaient plus dans les bureaux. La protection civile était rentrée. C'était la nuit et on était quasiment surpris. Donc, le fait de faire ce qu'on appelle de l'alerte précoce, de définir des mesures d'alerte, de communiquer cette alerte précoce, comme on le fait par exemple pour la houle, pourrait aider. Mais une alerte précoce doit aller avec une certaine préparation pour pouvoir évacuer les gens. Vous avez cité tout à l'heure dans l'introduction Mississippi, la partie sud des États-Unis d'Amérique, c'est que quand il y a alerte précoce, les municipalités ont les moyens d'évacuer les gens. Ici, l'évacuation, les gens n'ont pas d'alternative. Il faut que l'eau les chasse de leur maison puissent être obligés de sortir. Et donc, ce temps de préparation, ce temps de réponse est très, très limité par rapport aux moyens qui sont disponibles. Donc, du coup, on ne peut que répondre aux préjudices, mais je réponds. Il faut faire de la du rattrapage et se préparer de plus en plus à ces phénomènes parce que ça va être récurrent. C'est le changement climatique qui l'explique.
D'accord. Peut-être que Fadi aura l'occasion de réagir sur cette question. En seconde partie, nous avons quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook que nous vous livrons ici. Il y a Omar Selin Kofi à Abidjan nous dit « Les inondations sont le plus souvent dues au manque de curage des caniveaux ou simplement l'absence de caniveaux. » Archevêque H.L.U. Théodore à N'Djamena écrit « La meilleure solution aux inondations est d'ordre prévisionnel. Il faut un système de canalisation pouvant drainer les eaux jusqu'au fleuve, la mer ou vers les zones désertiques. » Et puis Omarou Zada Massadou au Niger, il écrit « Les conditions climatiques extrêmes sont causées par la destruction des forêts en Afrique. Pour limiter l'impact du changement climatique, chaque personne doit planter un arbre chaque année. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Au moment où plusieurs pays sont frappés par des inondations sans précédent, d'autres parties du monde subissent une sécheresse. Ici aux États-Unis, si certains États du Sud font face à des inondations, dans l'Ouest, c'est le manque d'eau et la canicule qui préoccupent, causant des incendies comme en Californie. C'est le cas de McKinney, l'un des plus vastes incendies cette année en Californie et qui a causé le déplacement de milliers de personnes le mois dernier. Thierry Kaoré.
Le long de la route Claremont River Road, les dégâts s'étendent sur plus de 22 700 hectares. Il s'agit du feu de forêt le plus important depuis le début de l'année en Californie. Au moins 4 personnes sont mortes, dont 2 calcinées dans leur voiture selon les autorités locales, qui précisent que le nombre de victimes pourrait augmenter. Dans la petite ville d'Ireka, non loin de l'Oregon, les habitants sont très inquiets.
C'est un peu effrayant, bien sûr, parce que vous ne savez pas, comme je n'ai pas pu trouver quelqu'un assez rapidement pour déplacer mon camping-car. J'ai juste dû espérer et prier pour qu'il ne soit pas brûlé, parce que vous savez, c'est mon seul moyen de voyage.
Certains habitants des zones dites d'évacuation ont commencé à plier bagages.
Les seuls spots d'évacuation que je connais sont à Ouid, donc nous allons probablement nous diriger vers Ouid. Je crois que la Croix-Rouge a quelques places là-bas, parce que tous les motels sont pleins. Il y a des pompiers, des évacués partout, donc il est plus probable que ce soit la zone d'évacuation de la Croix-Rouge.
La végétation extrêmement sèche et la menace continue de vents forts et imprévisibles ne facilitent pas le travail des pompiers. Face au danger, les autorités mettent en garde certains habitants qui préfèrent attendre le dernier moment avant de partir.
Chaque fois qu'il y a une évacuation, je crois que les gens doivent suivre ce conseil et évacuer. Maintenant, nous avons des avertissements et des ordres. Si on vous donne l'ordre d'évacuer, en particulier lorsque le feu est intense, comme nous l'avons vu de vendredi à dimanche, vous devez suivre ce conseil.
La saison des incendies en Californie, État qui subit une sécheresse persistante, devrait encore durer longtemps.
Merci beaucoup Thierry. Alors je rappelle nos invités à Boulder, Colorado, Fadi Maina, chercheur hydrologue à la NASA Goddard Space Flight Center, et à Dakar Sherbaugh, directeur général du Centre de suivi écologique. Alors Fadi, est-ce qu'il y a un lien entre ces chaleurs extrêmes, la sécheresse qui frappe certaines régions de la planète et la fréquence de ces inondations dans d'autres régions?
Je dirais que quand on dit qu'un impact d'une région n'affecte pas nécessairement une autre région, par exemple, si on revient au cas de la Californie que vous avez mentionné, en Californie, en fonction des saisons, on a la sécheresse, on a ces incendies qui sont fréquents, qui sont très intenses, et quand l'hiver va commencer avec les rivières de la Sunshine, qu'on les appelle, on va avoir des inondations. Donc une même région en fait peut tout à fait avoir des sécheresses et inondations.
Donc, ça peut affecter d'autres régions en fait.
Ça peut affecter d'autres régions dans le sens où c'est parce que il y a eu beaucoup de chaleur. Les océans se seront chauffés pour donner des précipitations. Parce que si on regarde, notre terre est très connectée. Donc, c'est le fait qu'on a ces chaleurs, en fait, qui fait à force qu'on réchauffe nos océans et que ça donne beaucoup plus de précipitations.
D'accord. Alors, Sherbaugh, ces deux phénomènes extrêmes sont vécus dans le Sahel en même temps. Hein. Ce surplus d'eau pendant la saison des pluies, est-ce qu'il ne peut pas servir pendant la saison sèche? Est-ce qu'il existe des systèmes de récupération de ces eaux de pluie qui peuvent servir d'exemple, par exemple, à l'Afrique?
C'est une très bonne question. Et toute la rhétorique que nous sommes en train de construire ici au Centre de suivi écologique, c'est de structurer une économie circulaire autour de cette eau. La zone du Sahel, c'est une zone où on a 9 mois de saison sèche et où pendant cette saison sèche, on cherche de l'eau partout. Et pendant la saison de pluie, on a de l'eau partout, mais on ne sait pas quoi en faire. Et il y a des systèmes quand même pour pouvoir non seulement drainer l'eau et les sortir de ces zones où l'inondation est un problème majeur, mais de faire en sorte qu'il y ait un système de rétention, disons, progressif de l'eau, en faisant des bassins le long des grandes routes, en faisant des bassins de rétention, mais pas seulement rétention, mais rétention et réutilisation de l'eau, mais aussi en essayant de faire un pompage direct. L'un des problèmes majeurs des inondations dans nos villes, c'est que les nappes souterraines sont des nappes polluées, nitrates, du fait des fosses septiques des maisons, parce que les maisons sont nombreuses, et cette eau-là ne peut pas être utilisée pour la consommation humaine. Par contre, c'est une eau qui est très utile pour l'agriculture. On peut la pomper, par exemple, de la ville de Dakar pour aller irriguer des zones dans la zone du Ferlo, qui est une zone sèche, et assurer une partie de la sécurité alimentaire de nos pays. Mais cette eau-là aussi, de plus, c'est une eau qui peut être utilisée pour le génie civil et pour faire plein d'applications en matière de développement. Mais je voudrais aussi revenir sur les feux, parce qu'il y a une relation dialectique entre les feux et tout ce dont nous parlons. Effectivement, c'est l'augmentation des températures qui explique l'assèchement rapide de la végétation qui crée les feux de brousse. Mais quand les feux de brousse sont créés, tout le carbone qui explique ce réchauffement planétaire, ce carbone-là est remis dans l'atmosphère. Et ça va perturber forcément les systèmes pluviométriques, parce qu'une bonne partie de l'eau dans l'atmosphère vient non seulement de l'océan, mais aussi de l'évaporation des plantes. Donc il y a un fort effort qu'il faut établir ici entre
le changement climatique, la restauration des terres dégradées, particulièrement au Sahel, le fait de planter des arbres, l'initiative Grande Muraille Verte pourrait contribuer à tout cela, et faire en sorte que l'eau, qui est un excédent et qui est une denrée rare, une ressource importante, ne puisse être perdue directement dans les océans par écoulement, mais qu'elle puisse être utilisée. Et l'élevage.
Alors, on a 3 minutes pour terminer cette émission. La dernière question que je voudrais vous poser à tous les deux, ces phénomènes climatiques extrêmes semblent être donc la nouvelle norme, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il faut vivre avec, Fadji, d'abord?
Je dirais que c'est l'adaptation. On peut s'adapter et puis il y a pas mal de méthodes qui sont faites et qui sont en place pour pouvoir nous adapter à ces trucs. Et aussi pour le cas de l'Afrique, je dirais qu'il faut mettre beaucoup de moyens dans la recherche, dans les méthodes de prédiction et des méthodes de prévention. Donc on n'investit pas dans la recherche pour mieux comprendre comment ces phénomènes agissent chez nous. En Afrique, on aura du mal à nous adapter.
Il y a la culture aussi de l'alerte, comme disait un peu Sherbaou, il faut peut-être s'y mettre.
Et ces méthodes d'alerte, en fait, sont basées sur encore de modèles mathématiques. Et pour faire tourner ces modèles de mathématiques, on a besoin de beaucoup de données qui vont nous permettre de dire, OK, à cette heure, on va avoir une précipitation qui est énorme, donc on peut évacuer les gens. Et l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est des initiatives comme ce que mentionné, c'est la Grande Muraille Verte, parce qu'on sait que les arbres, en fait, peuvent limiter ces inondations. Et donc, il y a beaucoup de méthodes d'adaptation. Tant qu'on sait, on comprend les phénomènes, on peut bien s'adapter.
Cher, allez-y.
Oui, je suis d'accord avec ma collègue qu'il faut vraiment se préparer en essayant de trouver des solutions naturelles à ce problème, parce que ça semble être un problème technique, mais tous les problèmes techniques n'ont pas de solution technique. Parfois, c'est des problèmes sociaux, c'est des problèmes d'organisation, de conscience collective. Vous avez parlé de canalisation tout à l'heure qui n'est pas calibrée, mais une bonne partie des canalisations pourraient évacuer les eaux si des canalisations n'étaient pas utilisées pour faire des déchets, des plastiques, qui obstruent ces canalisations. L'autre chose, c'est une conscience collective par rapport à la calibration de l'infrastructure. Il y a des quartiers qui étaient des quartiers résidentiels qui sont devenus des quartiers avec des immeubles. Vous voyez le boom immobilier en Afrique qui font que les caniveaux qui étaient calibrés pour quelques maisons sont maintenant au service de plusieurs immeubles sur le même endroit et donc ne peuvent pas évacuer toutes les eaux. Parce que ces eaux de pluie vont aussi avec les questions d'assainissement. Je crois que la solution, comme l'a dit notre collègue, c'est l'adaptation. Mais l'adaptation, est beaucoup, Maggie, l'adaptation veut dire beaucoup de choses. C'est en amont le fait de comprendre ce processus et de prendre des décisions idoines. En aval, c'est le suivi des infrastructures et de l'investissement. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi, par exemple, au Sénégal ou au Mali, pour ces inondations, à Abidjan notamment, mais que les choix techniques et les choix opérationnels n'étaient pas toujours les meilleurs choix. Donc, il faudrait vraiment une approche inclusive de la question de l'eau, une approche intégrée de la gestion de l'eau, pas seulement l'eau de pluie, mais l'eau d'assainissement, l'eau de consommation, pour créer un peu une solution durable par rapport à ces phénomènes récurrents.
Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. C'est un débat à suivre, évidemment. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site VOA. Afrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.